Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette conférence, le corps du délit dans la littérature et les séries populaires. On va pouvoir parler un peu de polar, de séries policières, mais aussi de science-fiction. Alors pour aborder ce vaste sujet, on a une Dream Team qui est spécialiste. On va commencer avec Floriane Soulas, qui est autrice, qui a écrit Rouille, un récit de steampunk aux éditions Scrineo. Un excellent récit que je recommande. Et je recommande aussi Laurent Whale, qui est à mes côtés, qui a écrit de la science-fiction et aussi du thriller et du polar. Par la mer et les nuages aux éditions Critiques, c'est une série en 3 exemplaires pour l'instant. Et Laurent Whale a écrit Crime, Alien et Châtiment chez Actu SF avec Laurent Genefort et Pierre Bordage.
3 tomes, hein. Il y a plus de 3 exemplaires quand même.
Oui, là, pardon, 3 tomes. Oula, ça commence très bien. Je vais aussi me présenter. Je suis Lloyd Chéry, journaliste pour le magazine Le Point et Le Point Pop. Et c'est l'instant publicité. On a sorti un excellent hors-série, les chefs-d'œuvre de la science-fiction que vous pouvez trouver en librairie. Voilà.
Tadam.
Voilà, intéressant. Donc on va enchaîner sur notre sujet, le corps du délit dans la littérature et les séries populaires. Mais avant tout, j'aimerais bien vous questionnez tous les deux qui écrivez de la SF aussi. C'est quoi votre rapport avec la littérature policière ou les séries policières, Floriane?
Les cadavres.
Mais encore.
Mais en fait, il n'y a pas très longtemps, on m'a posé la question de pourquoi j'écrivais de la SF et pas du contemporain. Et en fait, après réflexion, il m'est apparu que c'est parce que dans la littérature dite blanche, les morts ne sont pas du tout intéressantes. Et souvent, je trouve que c'est quand la science-fiction ou le fantastique et tout amène des façons de mourir beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus percutantes, plus marquantes. Et c'était naturellement vers ça que je me suis tournée. Et les séries policières telles que NCIS ou Bones, par exemple, que j'aime beaucoup, en plus d'amener une vérité médicale, quoi, avaient ce petit, comme ils parlent de meurtriers en série ultra gore ou de choses très bizarres, quoi, arriver à mener ce petit côté un peu dégueulasse, quoi, qui manque dans la littérature blanche et qui, moi, me font vraiment kiffer, quoi.
C'est plutôt agréable de voir que le polar est devenu dans la littérature blanche, on le voit comme ça, alors que pendant...
Pendant très longtemps, le polar, c'était vraiment la littérature de gare, c'était le truc qu'il fallait pas lire, c'était le truc les gens qui ne lisaient pas de la vraie littérature lisaient. Mais maintenant, il a vraiment glissé, je trouve, vers... Il a acquis ses lettres de noblesse, en fait. On lui a pas spolié ses lettres de noblesse. Il est devenu un genre vraiment qui est reconnu, avec des grandes figures, qui est accepté, quoi, qui n'est plus considéré comme une sous-littérature. Et maintenant, la science-fiction va faire le même chemin. Ouais. On y est, tu vois.
On espère. Laurent, le rapport avec le polar?
Pareil. Non... Bah, le rapport avec le polar, c'est moi j'ai toujours lu du polar, j'ai toujours lu de tout en fait, hein. Et c'est vrai, comme disait Floriane, les cadavres dans la littérature blanche sont un peu barbants, quoi. Ils sont très poétiques, ils chutent très élégamment, leur sang fait des arabesques, qui machin. Alors que bon, une balle de 45, ça fait pas des arabesques, hein. Hein.
C'est de quoi tu parles.
Voilà. Donc envie de décrire la réalité aussi. Donc, si j'ai la place dans de la science-fiction, donc j'ai des morts dans mes bouquins de science-fiction parce que je fais du post-apo, donc forcément il y a un petit peu des morts, même s'il n'y a pas des morts vivants, il y a des morts morts. Et dans mes bouquins, dans mes polars, dans mes thrillers, j'aime bien avoir beaucoup de réalisme. Donc, effectivement, il y a quand même pas mal de morts aussi. Et les morts sont des personnages à part entière d'un bouquin parce que soit on les cherche, soit on les trouve et on cherche qui les a fait, donc on n'arrête pas d'en parler du début à la fin, en fin de compte. Hein. Soit le mort est l'aboutissement de l'enquête, soit le mort, c'est le début. Et en chemin, on en fait d'autres, ce qui est toujours très jouissif. Moi, personnellement, j'adore la torture. Donc, je torture beaucoup dans mes livres. Vous verrez, il y a des petits manuels, c'est très ludique et vous pouvez...
Reproduire ça chez vous.
Je donne aussi des cours par téléphone. Ça, voilà.
Voilà, c'était Laurent Whale. Ça va être comme ça pendant 50 minutes, donc ne vous inquiétez
voilà,
pas.
Voilà, merci.
Et pourtant, ce qui est intéressant, comme pour la science-fiction, finalement, avec les histoires policières, la science s'est engouffrée très vite dans ces histoires qu'on regarde, par exemple, Jules Verne. Jules Verne, dans ses récits de science-fiction, il appelle ça de la féerie scientifique. Lui est très au fait de tout ce qui est la technologie et la science.
Merveilleux scientifique.
Ouais, du merveilleux scientifique. Et Jules Verne est, lui, passionné par ça. Donc, même si on regarde les aventures de Sherlock Holmes, la science aussi prend quand même assez rapidement de l'importance dans les enquêtes. Comment vous analysez ça pour les deux œuvres?
Alors,
de genre
Sherlock Holmes, c'est Conan Doyle, si je peux me permettre une petite remarque. Voilà. Mais sinon, comment on aborde ça? Ben, on aborde ça. Jules Verne, il n'y a pas beaucoup de cadavres quand même chez Jules Verne. Il y a beaucoup de merveilleux scientifiques. C'est la raison d'être des bouquins de Jules Verne. Si Jules Verne écrivait maintenant, qu'est-ce qu'il ferait? Ça peut être un sujet aussi qui serait intéressant. Qu'est-ce que ferait Jules Verne maintenant? Est-ce qu'il se serait engouffré dans tous ces trucs qui étaient du merveilleux scientifique pour lui, qui sont devenus notre réalité depuis des années? Qu'est-ce qui a lancé la science dans la criminologie? C'est la découverte de choses comme l'ADN. D'abord, il y avait les empreintes digitales, machin, mais ça, c'était pour trouver des cambrioleurs, etc. Quand on a découvert, on a vraiment pioché dans la science avec l'ADN, avec des technologies de pointe, avec la luminescence, etc. Là, on a fait entrer le gore dans le scientifique. Et ça, à mon sens, ça devient très intéressant. Si on parlait, par exemple, NCIS avec Ducky, voilà. Qui n'a pas regardé NCIS dans cette pièce? Eh ben, vous n'êtes pas en majorité, vous sortez tout de suite. Voilà. Donc, il y a un médecin légiste, j'explique, donc pour ceux qui n'ont pas regardé, parce qu'il faut quand même le faire. Donc voilà, il y a un médecin légiste de qui est David McCallum, qui était dans les agents très spéciaux, ceux qui sont assez vieux pour avoir regardé ça. Pas ma génération, hein, celle d'avant, bien sûr. Et donc, il dissèque des cadavres avec un bonheur total, il leur parle. Donc les cadavres deviennent des personnages. C'est bon, NCIS, ils enquêtent sur des marins américains qui ont été tués. Enfin, voilà. Et donc, ils leur parlent, ils ouvrent le sac noir où il y a un type qui a pris une balle dans la tête, qui était lieutenant de vaisseau. Il dit, alors, mon lieutenant, racontez-moi votre dernière journée, tout ça. Puis, il commence à le découper joyeusement en Y, parce que c'est la procédure. J'ai appris ça là-dedans, d'ailleurs. Et le cadavre devient, à part entière, l'histoire elle-même, tout tourne autour de ce truc. Bon, bien sûr, il faut trouver qui c'est qui l'a fait. Alors, en ça, il y a toute l'équipe avec la comment elle s'appelle, Abby, qui te ressemble un peu, d'ailleurs, je trouve. Oui, je trouve. Tes goûts musicaux, tout ça, voilà. Donc, il y a Abby qui a son laboratoire hyper pointu. Il y a David McCallum qui fait ses dissections, qui parle au cadavre et qui trouve, parce qu'il a le petit doigt qui est un petit peu faussé, que c'est un gars qui devait travailler sur un chantier de machin truc, etc. Donc, ça rejoint un petit peu du Sherlock Holmes dans l'observation. Ça rejoint le Sherlock Holmes dans l'observation, qui est de dire, Sherlock Holmes voit rentrer un type, il a un bout de poussière blanche sur la chaussure gauche, et il sait que c'est un type qui boite, qui bosse dans des mines, qui machin, qui vient de tel pays, parce que voilà. Donc bon, ça c'était avant la scientifique, il le faisait par la déduction. Maintenant c'est un peu facile, hein. On met le type dans un détecteur de mensonges, on lui fait une prise de sang, on sait où il a été, ce qu'il a mangé, d'où il vient, etc. Mais ça transporte l'angoisse ailleurs, comme la technologie, par exemple. Quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps, ouais, on peut plus faire de bouquins, on peut plus faire de polar. Moi, je veux plus faire de polar parce que maintenant il y a des téléphones portables, donc on sait où tout le monde se trouve, donc ça détruit une partie du suspense, quoi. Avant, on cherchait le mec, voilà. Maintenant, on regarde, on fait la géolocalisation de son portable et on sait où il se trouve. Donc ça, les flics peuvent faire ça à tout bout de champ. Mais ça n'enlève rien. Au contraire, ça crée d'autres choses et d'autres prétextes. Ça crée d'autres falsifications, d'autres... Voilà. Et surtout, le summum du summum, c'est quand on retrouve le téléphone portable sur un cadavre. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on dit, ah ben, on découvre que son téléphone portable ne le situe pas du tout là où on a retrouvé le cadavre. Et on peut commencer un truc comme ça. Voilà. Donc on peut utiliser ça pour sortir du cadavre tout simple, ben, il est mort. Bon, ça, c'est la première constatation. Hein, c'est la raison d'être d'un cadavre, c'est qu'il est mort quand même, quelque part.
Et ça aussi, il se relève.
Voilà, il ne bouge plus beaucoup. Donc on voit, on regarde autour, on détuit, on machin. Et là, je me suis vachement éloigné de ta question, mais c'était quand même super intéressant.
Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Sherlock Holmes. Par contre, enfin, je connaissais pas personnellement Conan Doyle, mais j'ai lu beaucoup de Jules Verne. Oui, bah non, c'est un peu raté, tu vois. Mais j'ai lu beaucoup de Jules Verne, et pour moi, Jules Verne, il avait vraiment une volonté de transmettre. C'était un prof, quoi. Parce que enfin, si tu lis L'île mystérieuse, tu sais faire une bombe, quoi. T'as tout. Et parfois, c'est très chiant à lire parce que c'est très long. Mais en fait, je pense qu'il avait vraiment une volonté de transmettre du savoir scientifique. Et en fait, c'était les premiers vulgarisateurs, quoi. Il amenait des choses. Et du coup, il a amené la science de cette façon-là, en voulant la transmettre à un public qui était plus jeune, mais au final, qui était lu par tout le monde. Et je suis d'accord pour dire que Conan Doyle a amené en fait, cette dimension. En fait, il a amené les cadavres dans la vie des gens. Parce que c'était des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, dans Rouille, à un moment, on parle de morgue. Et je me suis dit, comment ça se passait à l'époque, enfin, en 1900, qu'est-ce que c'était une morgue, enfin, comment ça se passait. Et en fait, c'est apparu que très tard, et avant, en fait, on se contentait d'exposer les corps pour que les gens puissent venir reconnaître les noyés dans la Seine. Il n'y avait pas vraiment de... Enfin, ça se trouve, ils étaient retrouvés dans la Seine, on considérait qu'ils étaient noyés.
C'est l'époque où on pouvait se baigner dans la Seine encore.
Enfin, j'irai pas, tu vois. Mais... Et du coup, en fait, voilà, les gens venaient constater si c'était des gens qu'ils connaissaient, et que ça permettait d'identifier les corps, et on les enlevait. Mais il n'y avait pas de recherche de pourquoi ils étaient morts. Ils étaient tombés dans la Seine, ils étaient noyés, point barre, quoi.
On a aussi l'impression que quand même le genre des séries policières à la télé, il y en a depuis très très longtemps, et que des séries comme NCIS, Les Experts ou Bones, ils essayent à chaque fois de se renouveler et proposer ou amener un peu de genre, un peu de fantastique ou un peu de SF. Ça permet aussi de proposer autre chose et de se différencier.
De toute façon, on ne va pas se mentir, de nos jours, je pense que vous regardez tous plus ou moins Netflix. 95% des choses que vous regardez, c'est de la SF, quoi. Où il y a de la part de fantasy ou de fantastique dedans. Enfin, on est ultra consommateur de ça. Donc forcément, maintenant, on regarde plus d'Eric. Enfin, comme ma grand-mère, quoi. Elle adorait d'Eric, par exemple, ou Siska, ou des trucs qu'on regardait quand j'étais petite. Maintenant, il faut accrocher le spectateur. Et le spectateur, enfin, c'est des générations qui ont grandi aussi avec des lectures différentes, avec un imaginaire différent. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de... On retrouve beaucoup de science-fiction, de fantasy et de fantastique, parce que c'est ce que les nouveaux spectateurs cherchent aussi, quoi.
Hormis les rouages narratifs qui sont, par exemple, dans NCIS, plutôt les experts. Dans les experts, il se passe quelque chose de déterminant toutes les 12 secondes. Regardez un épisode des experts et comptez. Vous allez voir une révélation, un type qui pousse une porte un peu violemment, un flingue qui sort de l'étui toutes les 12 secondes. Parce que c'est un formatage qui entre pile entre les plages de publicité. Donc ça, c'est autre chose. Donc quand il y a un cadavre dans NCIS, dans les experts, il faut que ce soit rapide ou alors il faut qu'il soit déjà mort quand on le trouve. C'est-à-dire que c'est pas... Quand il y en a qui se passent au cours de l'action, je recentre sur le cadavre, tu as remarqué.
Bien. Bien joué.
Quand il y a de l'action dans les experts, un type se fait flinguer, pan, ça fait pas plus d'une seconde ou deux, quoi. Mais en général, c'est au ralenti parce que c'est joli. D'où les arabesques, du sang, tout ça, machin. Voilà. Et ça en fait un des personnages principaux, parce que si on regarde tout ce qu'il y a dans les experts, il y a quoi comme personnage ? Il y a Horatio Caine, voilà. Le type a deux expressions. Il se lève, il se met de côté, il enlève ses lunettes. Voilà. Et à ce moment-là, le type avoue, quoi. Parce que bon, franchement, on ne peut pas résister, quoi. Donc ça c'est typique des trucs américains qui sont pas centrés sur la recherche, qui sont centrés sur pour faire croire qu'il y a un tas de trucs. Ils ont un laboratoire avec des néons bleus, avec des
surtout machins. Ils résolvent les enquêtes en 3 jours, quoi.
Ouais, voilà, c'est donc, ça. Voilà.
Même pas le temps pour faire une analyse en vrai, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, dans la vraie vie, on fait une recherche ADN, on fait un truc comme ça, on a la réponse 15 jours plus tard, quoi.
Donc, si quelqu'un a déjà utilisé un spectromètre de masse, comme ils font tout le temps, ça prend des heures et des heures et des heures, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que Abby, dans NCIS, elle est devant son spectromètre de masse, elle met une petite pichenette sur le côté et paf, le résultat, il sort. Trop de la balle.
C'est cool. Bah, hein.
Et bien sûr, c'est surprenant parce que forcément, il faut que ça soit surprenant, sinon c'est pas cool. Voilà.
Juste, comment on écrit, et là, tous les deux, hein, vous avez écrit soit du thriller, soit plus thriller ou polar. Qu'on est auteur ou autrice, à quoi on pense et c'est comment on fait pour écrire un bon récit, un bon récit policier comme ça.
C'est pour toi alors.
Alors déjà, il faut que le cadavre il soit crédible et ça aide vachement d'avoir des potes médecins. Voilà. Donc moi, à chaque fois que j'avais des questions sur, je fais oui, elle a telle blessure, est-ce que c'est crédible, ou elle fait une overdose, c'est quoi les symptômes, est-ce que si elle a tel symptôme, est-ce que c'est crédible, est-ce qu'elle va vomir, est-ce qu'elle va trembler, est-ce qu'elle va baver, est-ce qu'elle va faire de la mousse, est-ce qu'elle va se réveiller, est-ce que c'est possible. Ça, c'est vrai que déjà, comme tu disais, le cadavre, ben, c'est le début de l'histoire, quoi. Déjà, un bon cadavre, je pense que c'est un bon début. Et moi, j'ai posé beaucoup de questions à des amis médecins pour savoir comment je pouvais gérer ça, quoi. Et après, même derrière, quand elle va à la morgue, tout ce qui est décomposition, tout ça, pour que ça soit le plus crédible possible, parce que je pense que même si on écrit de la science-fiction ou des choses dites imaginaires, on n'est pas exempt d'essayer de faire des choses qui soient réalistes. Et de toute façon, si on ne le fait pas, on va avoir des remarques sur ça.
Si on n'y croit pas nous-mêmes, personne n'y croit.
C'est ça. Il faut que ça soit un peu crédible. Et après, je pense que... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé le plus dur dans le thriller, c'était de bien gérer la gestion des informations que je donnais à mon lecteur. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai fini mes premiers jets. En fait, je me rendais compte que je faisais de la rétention d'informations. Parce que j'avais tellement peur qu'ils comprennent trop vite que je donnais rien comme info. Et tout était super condensé à la fin. Et du coup, pour moi, ce qui était plus difficile, c'était du coup de remonter les informations à des moments intéressants. Enfin, comme tu dis, pas toutes les 12 secondes, mais assez régulièrement et de façon crédible pour qu'on trouve les bonnes informations. Et que justement, même s'ils comprennent certaines choses, qu'ils comprennent pas tout de suite, mais qu'ils aient quand même des pistes ou des fausses pistes ou quelque chose comme ça, ça a été dur.
Oui, puis c'est pas un manuel de médecine légale non plus c'est un polar, quoi. Voilà. Donc, le truc, oui, c'est à ça qu'on reconnaît les gens qui écrivent du polar, c'est que mes potes, moi, sont médecins légistes. Flic, tollard, voilà, des gens recommandables, quoi, voilà, et qui, pareil, ils seraient tout à fait volontaires pour me prêter un cadavre pendant 15 jours pour que je voie l'évolution.
À 15 jours, ça va sentir mauvais au bout d'un moment, quoi.
Oui, mais je fais ça chez quelqu'un d'autre, je suis pas fou non plus.
15 jours, ouais.
Justement, Laurent, alors comment on prépare une fiction
C'est beaucoup de documentation. C'est énormément de documentation avec... déjà, moi, mes thrillers sont sur une base historique. Donc, je prends toujours un personnage ou des personnages qui ont eu une vie légendaire de leur vivant, de vrais personnages, et qui ont eu une mort un petit peu douteuse, comme ce soit. Enfin, douteuse dans le sens où on ne sait pas trop exactement comment ils sont morts. On essaye de se raconter des trucs dessus. Soit c'est Billy le Kid, soit c'est Robinson Crusoe, soit c'est Saint-Exupéry et Mermoz, par exemple. Une fois que je me suis bien renseigné sur ça, après il y a plein d'autres enquêtes qu'il faut mener, c'est-à-dire que dans le cadre du dernier, il a fallu que je sache exactement comment fonctionnaient les escales de l'aéropostale et tout ça. Donc là on est encore loin des cadavres, mais des cadavres il y en a, et effectivement ces coups de fil à 3h du matin, un copain médecin légiste, t'es au boulot là? Ouais. T'as pas un type qui a pris une balle dans la tête?
Est-ce que tu fais ça, genre de faire des recherches sur des trucs super précis, et tu fais beaucoup de recherches, mais au final, ça fait trois lignes.
Ça fait trois lignes, ouais, très très souvent, parce
tout
que.
Le temps.
Ouais, voilà, parce qu'il faut pas, c'est pas, moi les informations qu'on me remonte des fois, il y a trois pages de trucs. Moi, tout ce que je demandais, c'est ça fait un trou de quelle taille une balle de 45. Voilà. Et après, j'ai toute la théorie. Ça dépend si ça tape un os, si ça tape pas un os, à quelle distance c'est tiré.
Avec quel angle.
Avec quel angle, exactement. Donc, voilà. D'où, encore une fois, toujours l'histoire du cadavre, elle est centrale. Si on ne croit pas aux morts dans un bouquin de polar, on ne croit pas au bouquin. Le bouquin n'existe juste pas. Si le personnage du mort n'est pas bien, pas réussi... on n'y croit pas. Moi, j'essaye toujours, enfin, jusqu'à présent, dans les histoires que j'ai écrites, de donner un historique au corps en question. C'est-à-dire que le gars, on vit avec lui, on voit son quotidien, machin, et ça, il donne des croquettes à son chat, j'en sais rien, enfin, c'est pas le cas, mais bon, admettons. Et il fait ça, il fait sa petite vie, puis il sort, et la dernière chose qu'il voit avant que la balle de 45 rentre par le temporal gauche, c'est l'horloge de la gare ou je ne sais quoi, voilà. Mais forcément, dans la dernière chose qu'il voit, il y a un indice qu'on ne retrouvera que 400 pages plus loin, en se disant « Nom d'un chien, il nous a encore baisé sur ce coup-là. » Voilà. Et ça, c'est toute l'essence du polar, c'est de faire croire aux gens qu'ils ont compris le mystère à la troisième page, et puis qu'à la quatrième page, ils disent « Non, mais c'est pas possible parce qu'il y a trop de trucs. » Et puis ça continue, et puis ça continue. Voilà. Donc notre temporalité est beaucoup plus longue que les experts qui doivent boucler un épisode en 52 minutes avec trois coupures pub au milieu. Et il faut que, pour que les gens ne zappent pas et ne passent pas sur une autre chaîne concurrente qui a d'autres pubs, d'autres sponsors, il faut qu'il se passe quelque chose toutes les 12 secondes. C'est en moyenne le temps d'attention de quelqu'un qui regarde un film, une série, on va dire, une série, que ça soit Walking Dead, que ça soit tous les trucs où il y a de l'action. Vous comptez les secondes, prenez votre montre et puis vous lancez le truc et vous dites là, il se passe un truc, clac, à partir du moment où il se passe un truc, j'attends. 12 secondes plus tard, il va se passer un autre truc. Parce que c'est le temps qu'il faut à un scénario pour faire un revolve, pour faire une boucle sur un événement précis. Et donc, là-dedans, ils en sont où, les cadavres ? Ben, ils sont morts au début, ils sont encore morts à la fin. Mais vous allez remarquer que dans ces films-là, on vous les fait voir en flashback vivant, tout le long. Et ça, c'est récurrent dans ces séries-là, parce qu'il faut créer, il faut que ce cadavre ait une valeur. Et la valeur ajoutée du cadavre, c'est son passé. Parce que son futur, c'est un petit peu foutu, mais... Donc, voilà. Donc, c'est son passé, ça... Et ce qui apporte... Et souvent, vous allez voir les trucs qui sont... Les flashbacks, qui sont en noir et blanc. Alors souvent au ralenti, voilà, parce que c'est plus joli, et puis on peut tenir 12 secondes. Voilà.
Et la science-fiction aime aussi mélanger les genres, et on le voit avec...
Où est-ce qu'il va, lui?
On le voit avec... on peut penser avec le cyberpunk, notamment, qui a souvent cette idée ou cette image d'une enquête policière qui mélange le noir, qui mélange... le côté cybernétique ou autre. Je voudrais revenir sur un film que je pense que beaucoup de gens ont vu dans la salle, qui est Minority Report de Steven Spielberg. Il y a toute une question du corps du délit dans ce film, avec des êtres qui arrivent à prédire l'avenir et à voir le délit, à voir ce corps mourir, et ça se fait ou ça se fait pas. Mais sur Minority Report, quel est votre avis, tous les deux ?
C'est un beau film, à part Tom Cruise. Ouais. Non, c'est un beau film, parce que c'est un bouquin magnifique déjà d'entrée de jeu, hein, qui a dit que, bon, ben voilà quoi. Hein.
Je trouve que le livre, il est plus intéressant, parce que dans le livre, il y a toujours... un rapport minoritaire.
Et puis dans le livre, il n'y a pas Tom Cruise.
Et il n'y a pas Tom Cruise. Voilà. Mais il y a toujours un rapport minoritaire. Du coup, en fait, il y a cette question de... en fait, on accuse des gens avant que le cadavre soit là.
Oui, avant que l'acte...
Et on sait qu'il y aura forcément une possibilité qu'il n'y ait pas de cadavre dans le livre. Donc c'est un choix quand même moral qui est plus fort, alors que dans le film, il n'y a pas de rapport minoritaire.
Dans le film, il le mentionne, comme dans le livre d'ailleurs, mais dans le film, il le mentionne. Il dit, mais vous faussez la réalité, parce qu'à un moment donné, il y a... quelqu'un qui fait une action, puis on lui dit, mais non, tu ne peux pas faire ça parce que ça va changer la réalité. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous dites que vous arrêtez un acte avant qu'il ait lieu. Donc déjà, vous changez la réalité, quoi. Donc c'est tout une espèce de paradoxe. C'est un petit peu comme les paradoxes temporels qu'on a dans les films sur le voyage dans le temps, etc. Et là, il n'y a pas de cadavre là-dedans, sauf vers la fin, mais il n'y a pas de cadavre là-dedans parce qu'il ne peut pas y en avoir, puisqu'on devine avant l'acte de violence qu'il va y en avoir un.
Oui, mais en fait, ça part du principe quand même qu'il n'y a qu'une seule réalité possible. Oui. Il n'y a pas de libre arbitre, en fait. Enfin, non. C'est assez,
assez directif. Dans plein de films de SF, il n'y a pas de libre arbitre. Quoi.
C'est toute la question du film, d'ailleurs. Est-ce que le crime va arriver ou pas ? Et cette idée, et ça, c'est un des points forts du film, c'est cette idée, imaginons que la personne ne va pas tuer l'autre à la dernière seconde.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Mais dans cette société qui est plus ou moins autoritaire, avec Pouet-Crim, c'est cette idée de on met quand même tout le monde en prison.
Bah, en fait, c'est-à-dire qu'on a switché le présomption d'innocence en présomption de culpabilité, quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça dit sur la société, en fait ? C'est-à-dire qu'on part du principe que tout le monde est mauvais, que fondamentalement, en fait, l'homme, quand il a un choix à faire, va faire le mauvais choix. Il va faire le choix de tuer.
C'est ça. Donc revoyez Minority Report, si vous l'avez
non,
pas
Non, lisez
vu.
Le livre.
Ou lisez le livre de Philippe K. Dick, là, une nouvelle.
C'est complètement nouvelle. Bidon, parce que l'homme est bon, au fond. Hein
bah, moi, j'ai envie de croire ça. En fait, pas souvent, c'est pas vrai.
T'écris de la science-fiction, toi.
Ouais.
Comment vous voyez l'évolution de Sherlock Holmes, cette figure, puisque maintenant il y a des séries TV de plus en plus populaires, et ça aussi, le personnage a évolué, même dans sa façon de résoudre les crimes, ça a un petit peu évolué entre la série TV anglaise de la BBC ou avec le Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. On a deux visions du crime, deux visions du corps et une nouvelle façon de résoudre des énigmes.
Bah, celle avec Cumberbatch, elle est british. Voilà, celle avec... Oh non, t'es... Si, pourquoi ? Parce qu'il ne te plaît pas, lui ?
Oui.
D'accord, bon, c'est une raison. Bon. Mais celle avec Robert Darnay, c'est un truc, c'est un machin américain.
Bon,
voilà. Donc c'est un blockbuster, truc muche, steampunk, tout ce qu'on veut, mais c'est pas Sherlock Holmes. Voilà. Sherlock Holmes, c'est la série avec comment il s'appelait, Brett. Pas Brett Sinclair, non, s'il y en a un qui dit Brett Sinclair, c'est pas celui-là. Bon. Il y avait un acteur qui s'appelait Jeremy Brett, voilà, et qui faisait le Sherlock Holmes de toutes les séries dans les années 70-80, et qui était absolument extraordinaire et collé au texte. Après, on a eu des trucs américains, comme c'est semi-américain quand même, Cumberbatch, hein, donc voilà. Et puis, il y a aussi Elementary, voilà, qui est carrément américain pour le coup, et où Watson est une femme, c'est Lucy Liu, je crois. Voilà. Donc c'est intéressant parce que, on en parlait tout à l'heure, dans l'acteur principal, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs.
Dans Elementary ?
Ouais. Sherlock. Bien. Voilà.
C'est le type de.
Oui, je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
Trainspotting ?
Ouais, ouais, c'est le type de Trainspotting. J'ai pas vu ça non plus d'ailleurs, mais bon.
Quoi ?
Donc, non, mais c'est bon. On parle de cadavres ici, on parle pas. Oh, pardon, il y a des bébés. Oh mince. c'est pas la conférence. Oui. Donc ouais, celui Elementary avec Lucy Liu, ce personnage-là, cet acteur qui est d'ailleurs aussi bon que Cumberbatch dans le rôle, il est beaucoup plus près, ça c'est une volonté des scénaristes, hein, j'imagine, c'est pas lui qui a décidé ça, il est beaucoup plus près du Sherlock Holmes de Conan Doyle, c'est-à-dire que c'est un type complètement maniaco-dépressif, drogué jusqu'au trognon, cyclothymique, c'est la totale, quoi. Et Lucy Liu reflète relativement bien le personnage de Watson, du docteur Watson, dans les bouquins de Doyle. Donc c'est assez étrange de voir que pour une fois, les Américains arrivent à faire un truc qui ne bouge pas toutes les 12 secondes et où on peut un petit peu réfléchir et on mène une enquête du début à la fin. Même si c'est actualisé, c'est des multinationales, des choses comme ça. Mais
je pense que c'est une bonne chose aussi d'avoir donné un contexte beaucoup plus actuel. Parce que quand on relit aujourd'hui Conan Doyle, à moins d'être vraiment très fan de cette période-là, je pense que les jeunes lecteurs, ils vont pas beaucoup accroché à ça, quoi.
Bah oui,
ça
peut être plus difficile. C'est complètement victorien, mais dans le plus pur sens du terme. C'est pas du tout steampunk,
non,
c'est victorien. Voilà.
Et du coup, de l'avoir réactualisé comme ça, avec un décor très court, très actuel et tout ça, c'est une bonne façon pour les jeunes de rentrer dans cet univers-là et de, justement de voir un personnage principal qui n'est pas quelqu'un de bien. En fait,
oui, voilà, c'est ça. C'est
une autre vision aussi.
C'est pas Horatio Caine.
Non, clairement pas.
Et
non.
Lui, il a plusieurs expressions quand même, le mec qui fait Sherlock. Donc voilà, c'est un rôle beaucoup plus difficile que celui d'Horatio Caine, qui pourtant a dû ramasser beaucoup plus de blé. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais ouais. On arrive maintenant à retranscrire des anciennes légendes, etc., des anciens bouquins, surtout du 19e pour l'instant, parce que la vague, elle est comme ça. Y avait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ce genre de truc qui était une version steampunk de avoir mélangé tous les héros en même temps. Il n'y avait pas Sherlock Holmes, d'ailleurs,
non,
dedans.
Je
crois qu'il y avait le Capitaine Nemo, il y avait Alan Quatermain, voilà. Tous ces personnages qui ont beaucoup moins existé, en fait, que Sherlock Holmes, dont on pouvait croire qu'il était absolument réel.
Ouais.
Sherlock Holmes, l'anecdote, quand Conan Doyle en a eu marre, quand Conan Doyle en a eu marre, il a fait mourir Sherlock Holmes dans un épisode qui se passe ensuite, il tombe dans les chutes, il meurt, tac, paf. La reine en personne est intervenue pour dire « Monsieur Doyle, ceci n'est pas possible ».
Donc, il avait un problème d'ego avec son personnage aussi.
Donc, oui, voilà. Et donc, du coup, Sherlock Holmes, il sort de la chute, il arrive, il est déguisé. On le voit dans un des épisodes.
Dans le film.
Ouais, dans le film, voilà. Il revient déguisé pour surprendre Watson. Et il n'est pas mort parce que la reine Victoria avait dit que ça l'indisposait. Et donc, c'est quand même une personne qui faisait et défaisait des empires. Donc, bon, il a considéré qu'il était de bon ton pour lui et pour sa carrière d'indulger. Donc voilà. Donc Sherlock Holmes n'est pas mort, mais c'est l'exemple même du personnage que tout le monde croit réel. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un fait mourir Tintin dans un Tintin, je vais jamais décrocher mon téléphone. Bon, voilà. Mais par contre, ouais, Sherlock Holmes à l'époque, faut remettre dans le contexte. Il n'y avait pas les experts, il n'y avait pas la télévision. Donc on est dans une époque où les gens lisaient. Beaucoup de gens, à partir des classes, on va dire moyennes à supérieures, lisaient. En dessous, peut-être un peu moins, mais plus que maintenant, sans doute. Mais à l'époque, tout le monde lisait, donc c'était important. Il n'y avait pas de télévision. Et l'avantage des livres sur la télévision, c'est que quand on voit Horatio Caine faire les deux expressions faciales qu'il n'a jamais apprises dans sa vie, on est très loin de lire, par exemple, une intrigue de Conan Doyle qui fait les rouages à l'intérieur de la tête de Sherlock Holmes sont assez spectaculaires, quoi, quand même. Voilà.
D'ailleurs, il n'explique pas tout, souvent.
Non, il n'explique pas tout. Non, il n'explique pas tout. Et on le voit, et on voit ça transcrit, justement, dans Elementary. Quand il réfléchit, on voit les schémas se former dans son esprit, comme c'était le cas dans les livres de Sherlock Holmes. Ça nous emmène loin des cadavres. Tu veux pas tuer quelqu'un, là ?
Bah, vas-y, trouve-moi quelqu'un.
C'est pas ce qui manque.
Un volontaire.
Grâce aux avancées technologiques et scientifiques, on a l'impression des fois de se rapprocher de la science-fiction. Là, j'ai regardé sur qu'est-ce que les nouveautés de la police scientifique. On a des scanners laser qui arrivent sur une scène de crime à produire des millions de nuages de points pour figer la scène. On a l'odorologie qui est de plus en plus développée, qui permet à un chien avec une odeur d'arriver à affiner au maximum pour savoir si le suspect en question a été ou pas sur la scène de crime, ou même une signature vocale, et ce qui a permis notamment qui arrive à tellement affiner la voix qui permet de retrouver, même sur un message vocal pas clair, la voix de la personne. C'est comme ça que Jérôme Cahuzac a notamment été fait avoir par son enregistrement téléphonique. Comment vous voyez ces...
Pas le criminel du siècle non plus, lui.
Pas le criminel du siècle, en effet. C'est peut-être le menteur du siècle, mais peut-être pas le criminel du siècle.
Ils avaient attendu assez, ils se seraient foutus dedans tout seul. Hein.
Comment vous voyez ces avancées scientifiques et technologiques qui sont réelles et qui se rapprochent en fait de l'ASF ?
Comme je parlais du téléphone tout à l'heure, portable, au lieu de retirer des choses dans les intrigues, ça en ajoute, moi, je trouve. Parce qu'on peut se servir d'un tas de choses. Et qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a des criminels qui essayent de passer à travers les mailles du filet en les connaissant. C'est-à-dire qu'ils se font tout petits poissons, ils passent entre les mailles parce qu'ils savent qu'il va y avoir un détecteur de trucs, un machin. Donc on envoie, par exemple, quelqu'un d'autre commettre le crime en lui gonflant le mou à propos de quelque chose. Et voilà, donc ça crée d'autres rouages et ça permet aussi aux écrivains de dire on va faire une analyse de machin truc, donc ça permet de décrire, donc ça fait joli. Voilà. Mais le but n'est pas seulement de faire joli, le but est de faire vrai. Or, comme ça se passe comme ça sur le terrain, eh ben, c'est vrai. Mais en fait, les choses que tu viens de mentionner, mes amis policiers, je ne sais pas s'il y a des amis policiers dans la salle. Y a-t-il des amis policiers ? Non ? Ah, c'est bien dommage. Bon, tant pis. Donc, mes amis policiers me disent, on n'a pas ça sur le terrain. Ça, c'est dans les experts. Hein. Sur le terrain, on y va, on relève les empreintes, il n'y a pas d'empreintes. Bon, il y a un type qui a été flingué, on va cuisiner toute sa famille, on va trouver le meurtrier. Parce qu'en général, c'est un truc domestique. En général, c'est le mari, l'amant, c'est le triangle habituel, le mari, la femme, l'amant, le voisin, le cousin, le machin, une histoire d'héritage, une histoire de cul, voilà. Dans la plupart des cas, l'exemple le plus typique, c'est l'affaire Grégory, où il cherche encore le truc et les fortes présomptions sont quand même sur le type qui a été descendu par le père. Maintenant, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Tout ce qu'ils ont maintenant, c'est de l'ADN sur le timbre du corbeau, machin. Donc, ça relance oui et non, un truc dont, en plus ça va, ce qui est malheureux pour les gens qui sont impliqués là-dedans, mais plus ça va, plus on s'en fout, quoi. C'est, voilà, le gamin, il est mort, il va pas revivre et on va trouver. Quand ils vont finir par trouver le meurtrier, quand le meurtrier lui-même sera mort. Donc, c'est. C'est l'exemple type de truc qui finit par faire rien, flop.
Je pense que, en fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit il faut faire vrai. Et en fait, je pense que, forcément, la médecine légale, elle a évolué. Et j'allais dire, on ne tue plus comme en 1800. Mais peut-être que si, en fait. Mais du coup, on ne résout plus les enquêtes comme en 1800. Et je pense que, du coup, on n'écrit plus comme on écrivait à l'époque de Conan Doyle, par exemple. On en parlait hier avec d'autres gens et on disait, par exemple, Clark Ashton Smith, qui fait de la fantasy très noire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il serait publié. Parce qu'on n'écrit plus de cette façon-là. Et du coup, je pense que, avec cette nouvelle technologie, même si, pour le coup, j'ai pas énormément d'amis flics, mais j'ai des amis médecins. Et on ne va plus résoudre les enquêtes de la même façon. Et du coup, forcément, ça se déporte dans la science-fiction. Et nous, comme on est toujours, on essaye d'être toujours un peu dans le futur, quoi. Forcément, on va trouver d'autres moyens de résoudre. Et je pense pas que ça enlève des choses. Je pense que ça amène justement d'autres façons de traiter les sujets, d'autres façons de découvrir des indices, d'autres façons de créer des intrigues et de nouvelles façons d'écrire et de résoudre les choses, quoi. Et peut-être même de tuer les gens.
Très bonne question.
Donc, par exemple, dans Minority Report, au final, est-ce qu'on ne peut pas dire que ces gens-là, c'est juste des gens qui tuent des gens ? Parce qu'ils les empêchent de tuer des gens, mais ils les arrêtent. Et au final, on ne sait pas trop ce qu'ils viennent. Enfin, c'est une autre façon de résoudre le crime. C'est une autre façon d'être un crimier, comme dirait l'autre. Quoi.
N'importe comment, la technologie dans les bouquins ou dans les films, c'est jamais qu'un outil et qu'un ressort narratif. L'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, si on a un bon... Ah, il s'est barré, Laurent, je ne l'ai même pas vu. Il est sournois. Donc, c'est un ressort, c'est un accessoire. Voilà, c'est un accessoire. On va remplir avec des accessoires qui aient beaucoup de technologie pour trouver un meurtrier. On s'en moque parce que ce qu'on va faire, c'est créer une histoire crédible autour de ça. Et on va tourner autour de ces écueils qui sont maintenant, on a l'ADN, le type, s'il a laissé une cellule épithéliale, parce qu'il y a peu de temps qu'on sait ce que ça veut dire, hein, merci les experts. Donc il a laissé une cellule épithéliale quelque part et on va savoir qu'au moins il était sur le truc, sauf si quelqu'un a placé cette cellule épithéliale ici à sa place. Donc ça c'est un ressort dont je me sers dans mon prochain roman extraordinaire. Voilà. Donc voilà. Et c'est voilà le déplacement de preuves par personne interposée qui n'en sait rien, enfin ignorante du système. Ce qui fait que c'est complètement transparent et on ne sait jamais ce qui se passe. Voilà. Mais tout ça, toutes ces technologies n'enlèvent pas le fait qu'il faut avoir du style, il faut écrire une histoire poignante. Et ce n'est pas parce qu'on a des bureaux avec des néons bleus qu'on a une histoire poignante et un type qui a deux expressions faciales et des lunettes de soleil. C'est un peu court, quoi.
Puis il y a des cas de figure où il n'y a pas de... Enfin, le corps n'est pas là. Et donc... ce qui est aussi intéressant, c'est...
Bah, les disparus, c'est vachement intéressant, les disparus, parce que ça ouvre tout un tas de possibilités. Une fois qu'on a retrouvé un cadavre plein de trous, bah, on a un cadavre plein de trous, quoi. Voilà. Mais bon, il faut encore trouver qui c'est, tout ça, machin. Mais le disparu, ça, c'est un truc intéressant.
Peut-être revenir entier ou pas entier, ou vivant.
Voilà. Et d'ailleurs, on en parlera demain.
C'est ça.
Mais ouais, le disparu, il y a un mystère à la base. D'abord, on n'y croit pas. Bon, il n'est pas là, c'est un adulte, il est parti, puis c'est tout. Voilà. Et puis les flics, ils ne veulent rien faire. Parce que c'est comme ça, les flics, ils ne veulent rien faire. Bon, je dis ça parce que personne n'a levé la main quand j'ai demandé s'il y avait des flics dans la salle. C'est toujours plus commode d'accuser ceux qui ne sont pas là. Vous voyez, puis c'est jubilatoire en plus. Donc, mais c'est vrai, ils ne vont rien faire dans un délai raisonnable en se disant, bon, ben oui, c'est un adulte, il est parti, il a le droit de partir, et puis c'est tout, c'est ça la liberté. Donc, et puis, quand ça devient inquiétant pour des signes récurrents, il n'est pas allé chercher les enfants à l'école, enfin, il y a plein de choses, il ne s'est pas présenté à son bureau, donc oui, il a toujours le droit de ne pas se présenter à son bureau, de machin. Mais on a retrouvé sa voiture pleine de sang, par exemple. Ça, là, quand même, des flics de banlieue vont se dire, oh tiens, c'est bizarre quand même. Voilà. Donc à partir de là, on va déclencher quelque chose. Mais pour l'instant, dans un roman policier, on ne sait toujours pas si c'est le sang du mec qui a disparu. Si ce n'est pas le sang d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ce corps qui n'est pas là génère plus d'angoisse qu'un corps qu'on voit. C'est toujours pareil. Dans un film d'horreur, qu'est-ce qui fait peur ? C'est le grincement qui est au grenier. Quand on voit le type, une fois qu'on a vu le type deux fois avec son couteau, bon, ça va quoi. Voilà. Mais le grincement qui est au grenier, les bruits qu'on entend à la cave, parce que c'est, je ne sais plus qui c'est qui a raconté ça, c'est toujours la même chose dans les films d'horreur. Hein. Ils sont deux. Il y a des bruits au grenier. Il y en a un qui va au grenier, il y a des bruits à la cave, l'autre il va à la cave. Au lieu de rester ensemble, c'est con. Voilà.
On va commencer à prendre une série de questions. Est-ce que je me dis qu'il y a des questions au fond. Alors, hop là.
On applaudit bien fort, Madame Micro.
Bon, je vous oublie pas à gauche.
Bonjour, merci pour la conférence. Je me demandais comment vous créez vos corps de personnages, dans le sens, est-ce que vos corps de personnages ressemblent à la psychologie de vos personnages? Est-ce que le nom de vos personnages donne des éléments de vos personnages au niveau de leur caractère?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas comment tu fais toi. Moi, je choisis le nom des personnages morts, c'est ça la question? Le nom des morts ou le nom de tous les personnages? Alors, le nom de tous les personnages, oui, il y a une certaine recherche dans le nom des personnages. Clairement, j'ai recherché un nom stupide, parce que je voulais que ce nom soit en complet décalage avec la psychologie du personnage. Je ne sais pas comment vous vous appelez, mais vous n'avez pas choisi votre prénom. Voilà. Et vous n'avez pas choisi votre nom de famille non plus. Voilà. En ce qui vous concerne, j'espère que ce n'est pas Octave Pignard. voilà, qui est le nom de mon personnage principal et qui est pourtant un roman très sérieux qui charcle de tous les côtés. Voilà. Donc voilà pourquoi je l'ai fait, parce que c'était un décalage total et j'avais besoin d'avoir un personnage qui ne s'appelle pas John Barton, par exemple, voilà, ou Horatio Caine, voilà, pour en citer que. Voilà. Donc c'est... Ouais, le nom des personnages, il n'est pas choisi au hasard. Le nom des autres personnages, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une certaine musicalité dans un nom. Il faut qu'on s'y retrouve. Et il faut aussi qu'il ait des caractéristiques techniques qui font que, par exemple, on peut le mettre et on n'est pas obligé de mettre L' devant son prénom ou des choses comme ça. Donc, il y a des caractéristiques techniques. Ça, c'est le côté purement technique. Mais pourquoi Octave Pinheur ? Parce que je voulais que ce soit un décalage. Par exemple, dans mon autre série de thrillers, le héros s'appelle comment déjà ? Le héros s'appelle... C'est un truc de malade.
Voilà. Laisse répondre Florian.
Ouais, vas-y. Comment il s'appelle ?
Je ne sais pas. Moi, je choisis beaucoup les noms de personnages en fonction de certains aspects de leur personnalité. Par exemple, dans Rouille, j'ai un espèce d'homme de main tueur à gages et il s'appelle Surin. Parce que voilà, il a toujours son surin sur lui. Et en fait, au fond, je ne sais même pas si c'est...
Il aime beaucoup les oiseaux.
Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment son prénom ou son surnom, mais voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est leur trouver des surnoms ou des noms qu'ils vont utiliser qu'à certains moments. Des diminutifs. Et par exemple, mon héroïne qui s'appelle Violente, avec un A, qui est une prostituée, a un nom de prostituée. Et en fait, à part les gens avec qui elle va passer du temps en privé, tout le monde ne la connaît que par ce surnom de prostituée, qui est en fait qui est duchesse, parce que voilà, on lui a construit une identité de prostituée autour de son éducation et du fait qu'elle est cultivée. Et du coup, pour les gens, c'est ça son nom, parce que c'est aussi une façon de préserver son identité. Mais son nom de Violente, en fait, c'est aussi une façon de montrer ce qu'elle est, le milieu dans lequel elle vit, et dans l'environnement dans lequel elle interagit, et tout ça. Et donc je pense que, de toute façon, on ne sait jamais innocent les noms qu'on choisit, que ce soit conscient ou pas, il y a toujours quelque chose derrière du personnage, ou de nous, ou de l'histoire, où il y a toujours quelque chose.
Je te remercie, je l'ai trouvé. Il s'appelle Dick Benton.
Voilà. T'en prie.
Et pourquoi il s'appelle Dick Benton ? Parce que quand j'étais gamin, alors là, c'est un secret. C'est un secret total, il ne faut le dire à personne. Quand j'étais gamin, j'étais en colonie de vacances. Si, si, ça aussi, il faut le dire à personne. Et une activité qui était, on crée des petites histoires. Les diapositives, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est maintenant, les diapositives, c'est des petits trucs comme ça, avec un petit négatif au milieu, vierge, sur lequel on dessine et on peut les passer dans un projecteur et on peut créer des histoires comme ça, comme une BD qui serait animée en quelque sorte. Voilà, avec un petit magnétophone, et on écrivait des dialogues avec mes petits camarades. Et j'avais créé ce héros qui s'appelait Dick Benton, qui conduisait une voiture de sport et qui allait enquêter sur des œufs géants qui tombaient de l'espace. Voilà, vous voyez, déjà, j'étais un peu barré. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai écrit ce truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'écris... je le disais à table. Bon, c'est pas grave. C'est que je mets des noms de personnages qui sont bidons au départ. Il me faut un personnage là, je mets un nom bidon, tac, tac, tac. Ce qui est bien avec Word, c'est que je fais annul et remplacer et je change le nom du mec. Voilà. D'où le côté technique, il faut que ça puisse aller dans toutes les phrases, donc il faut que ça commence par des consonnes, point final. Voilà. Pour le nom de famille, en tout cas. Et donc, bref. Et donc, j'avais créé ce personnage qui s'appelait Dick Benton. Et quand j'ai écrit le premier thriller que j'ai écrit, qui s'appelle Goodbye Billy, que je recommande à tout le monde, naturellement, le héros, je ne savais pas comment l'appeler. J'ai dit, tiens, ce nom m'est revenu, j'ai fait ça. Ça correspondait, en plus, deux consonnes, c'était très bien. Donc, voilà. Et en fait, quand j'ai eu fini, je me suis dit, pourquoi il ne s'appellerait pas comme ça, quoi ? C'est une équipe d'enquêteurs de la Bibliothèque du Congrès, c'est des Américains, il n'y a aucune raison qu'il ne s'appelle pas Richard Benton. Donc voilà, donc du coup il s'appelle comme ça et c'est resté. Et en fait, j'ai donné vie à ce petit personnage que j'avais créé quand j'avais 6-8 ans. Quoi.
On va prendre une autre question, monsieur le micro déjà. Quelqu'un... Ah, monsieur le micro ici déjà.
Oui, bonjour. Moi, un de mes petits trucs secrets, c'est que j'aime bien regarder Faites entrer l'accusé. Et le truc, c'est que au début, quand je regardais les premiers, les histoires de faits divers, je me disais c'est horrible, il y a un cadavre et tout. Et puis petit à petit, l'empathie disparaît et on a un rapport qui devient limite fictionnel avec ces personnages. Ça devient des personnages plus que des personnes. Est-ce que vous n'avez pas peur, à force d'écrire dans ce genre d'univers, que ce soit science-fiction ou même historique, que le lecteur finalement perde un petit peu ce sentiment d'empathie qu'il faudrait avoir avec tout cadavre, toute personne disparue?
Moi, je n'ai pas tellement d'empathie pour les cadavres, non, effectivement. Mais J'en ai très peu dans mes amis, par chance. Mais, non, de l'empathie. En fait, ce qui compte, c'est tout ce qu'on va mettre autour. Donc, est-ce qu'on va créer de l'empathie ? On le fait, si on le fait, on le fait volontairement. Si je crée de l'empathie, j'ai envie qu'on ait de la peine pour ce type et j'ai envie que ça crée de la haine chez le... Hop, je mets de l'empathie dedans parce que comment je mets de l'empathie ? Comme je disais tout à l'heure, je raconte la vie du type avant qu'il se fasse buter. Et donc le type devient... C'est pas un cadavre anonyme auquel on prend la carte d'identité, on dit tiens, il s'appelle... elle s'appelle Marilyn Chombier, voilà, par exemple. Eh ben non, c'est pas ça. C'est dire Marilyn Chombier, ben ce matin-là, elle avait un petit peu mal au ventre et ça l'embêtait parce que son chat aussi était malade. Et ça, c'est un signe. Et donc voilà, Marilyn Chombier, elle descend chercher des croquettes antiseptiques. Et au moment où elle sort dehors, le soleil est radieux, le tramway 124 passe. Oh mince, elle l'a raté. Mais elle a pas raté la balle de 635 qui vient de lui rentrer dans la tête. Voilà.
Florian.
En fait, j'ai envie de citer Harry Potter. Dumbledore, il a dit
enfin, pity,
the dead, pity the living. Je pense qu'en fait, tous les cadavres, oui, bien sûr qu'on a de l'empathie pour eux. Moi, je les mutile en plus, alors bon, j'ai pas vraiment d'empathie.
Oh, excellent.
Mais en fait, ils sont personnages principaux parce que sans eux, l'histoire ne démarre pas. Et forcément, on leur donne une histoire avant parce qu'il faut quand même qu'on s'attache aux personnages qui meurent, sinon les lecteurs ne vont pas pleurer et ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais au final, c'est pas eux qu'on va suivre derrière. Enfin, ils sont toujours là, mais c'est les personnages vivants qui restent. Donc, c'est aux personnages vivants qu'il faut qu'on s'accroche. Et si eux, ils ressentent de la colère ou de la tristesse parce que le personnage est mort, c'est ça qu'on veut créer. Mais au final, Le personnage, il est mort. Maintenant qu'il est mort, il est mort.
On le crée en le rendant le personnage mort sympathique avant.
Voilà. Ouais. Mais après, une fois qu'il est mort,
on s'en fout.
Voilà.
Moi, j'aime bien les torturer avant qu'il meure aussi.
Ouais, moi aussi.
On va prendre une autre question.
Les torturer avant qu'il meure.
Monsieur,
bonjour. Vous avez beaucoup parlé de la technologie et de la science-fiction comme arrivant autour du cadavre pour en tirer toujours plus d'informations et toujours des informations toujours plus complexes et nouvelles. Mais vous n'avez pas parlé de quand la science-fiction arrive à cause du cadavre, comme dans X-Files ou dans Fringe, où le cadavre en lui-même va être un élément étranger, un élément qui va... qui va être inexplicable.
Genre Roswell ?
Par exemple, oui.
Ouais.
Et où l'enquête policière, le polar va se greffer autour de la science-fiction plutôt que ce soit l'inverse. Je voulais avoir votre avis là-dessus, en fait.
T'as pas d'avis, hein ?
Bah, j'ai pas regardé Fringe et j'ai pas vu beaucoup de X-Files.
Ouais, moi, j'ai vu pas mal de X-Files et effectivement, l'élément déclencheur du suspense, de l'angoisse latente à ce type de feuilleton comme X-Files, par exemple, c'est toute une angoisse. La musique y est pour beaucoup aussi. Et puis les téléphones à clapper aussi. C'est quand même le top de la technologie à l'époque. Je me rappelle, il faisait clac, Mulder, j'écoute. Voilà. Donc, l'élément étranger d'office dans le cadavre, qui est le cadavre qu'on suppose un extraterrestre, où c'était principalement le sujet du truc, oui, ça apporte et ça fait basculer dans la science-fiction. X-Files, c'est quoi ? C'est des agents qui sont du FBI, en fait. Hein, donc, ils sont normalement du FBI, donc ils enquêtent sur des cadavres dits normaux, hein, des bons Américains truffés de plomb, ce genre de choses. Et en fait, là, on se trouve en présence de corps qui sont qu'on essaye de leur planquer. D'ailleurs, l'homme à la cigarette essaye de dissimuler des machins et tout ça. Oui, effectivement, c'est un autre angle. Mais là, on attaque. En ce qui me concerne, moi, X-Files, c'est purement de la science-fiction. C'est pas NCIS, par exemple. Voilà. Si dans NCIS, on trouve un cadavre qui ressemble à un extraterrestre, c'est probablement une arnaque. Une potacherie de lycéens ou je ne sais quoi qui bossent en médecine et qui ont créé ce truc-là. Ça ne peut pas être autre chose parce que NCIS est une série policière, sérieuse, monsieur. Donc, alors que X-Files est une série... Ah, tu la connais, je ne te félicite pas. Ah, vous êtes suivie, madame. Voilà. Donc, ouais, pour moi, X-Files, c'est une série de science-fiction. qui tranche vraiment. Déjà, la musique, on sait déjà qu'on ne va pas dans la poursuite à coups de flingue en bagnole. Hein. On part déjà sur clairement autre chose, la lampe au plasma dans le générique, tout ça. Tout est fait pour créer une ambiance de science-fiction en ayant détourné un truc de flic, de FBI, en quelque chose de SF. Fringe, je n'ai pas vu. Je ne peux pas parler de Fringe.
Et on peut aussi rebondir sur X-Files, mais aussi Twin Peaks de David Lynch, que vous avez vu avec David Duchovny, déjà en agent du FBI. Et c'est intéressant puisque c'est X-Files, il y avait ce qui a aussi, je pense, a fait le succès de la série, c'est qu'il y avait vraiment ce lien avec la science-fiction et le paranormal, et du coup ça assumait vraiment ce genre-là. Et Twin Peaks l'a fait au fur et à mesure aussi dans cette idée de corps. Donc ça commence très classiquement avec un corps qu'on retrouve, celui de Laura Palmer. Et plus on avance dans l'histoire, plus le fantastique, voire limite la science-fiction, commence à arriver et les corps commencent à disparaître. Et donc c'est deux séries hyper importantes.
De quelle Twin Peaks tu parles?
La première série,
c'est MacLellan, c'est pas Duchovny.
Oui, mais Duchovny fait une apparition en tant qu'agent du FBI, qui est transgenre, je crois, dans la série. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière?
Oui. J'en avais une. C'est une double question qui est un petit peu positionnée plutôt sur l'aspect moral. Oui, je suis ici. Est-ce que la morale est un terme qui vous intéresse dans vos romans, c'est-à-dire sortir d'un positionnement basique bien mal où ça serait le méchant tueur qui tue une personne qui est gentille et l'enquête est menée par un gentil policier et à la fin le méchant est en prison ou tué, ou qu'on voulait sortir de ça, ou ça peut
ça,
être
ça marche pas du tout,
une
ça.
Très bonne une, personne un bon est gentil. Famille qui pète ouais, un câble
ça marche pas du tout dans
le
un
flic
bouquin,
est lui-même quelqu'un qui bat sa femme ou voilà et à la fin le criminel s'en sort.
Il n'y a pas de flic gentil. Ouais,
est-ce que l'aspect moral vous intéresse et puis également l'aspect châtiment du criminel ou à la fin comment ces notions-là vous interrogent ou vous intéressent?
Pour moi, il n'y a pas de gentil. Enfin, personne n'est vraiment gentil. Et enfin, tout à l'heure, on parlait de faire le bon flic, mauvais flic, mais en fait, je pense que dans la vraie vie, il n'y a pas vraiment de gens qui soient. Enfin, j'ai essayé d'écrire des personnages qui soient profondément gentils, mais en fait, tout le monde est gris, je pense. Et dans mon histoire, en tout cas, dans Rouille, je sais que. Il n'y a que des gens gris. Enfin, ça parle de prostituées et de macros. Et donc, même mes gentils ne sont pas vraiment des gentils parce qu'à côté, ils font des choses pas recommandables. Donc, il n'y a pas vraiment de gentils. Et de toute façon, je pense que ce n'est pas intéressant, les gens gentils.
Non, ça fait pas des bonnes histoires.
Parce que du coup, ils font toujours les bons choix. Et alors, ils tuent personne. Alors, donc, du coup, personne meurt. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et en plus, je ne sais pas, moi, dans les livres que je lis, c'est toujours aux méchants que je m'attache le plus.
Oui, c'est clair.
Mais j'aime bien quand tout le monde souffre. Donc tout le monde est châtié. Le châtiment, c'est universel. Tout le monde en prend pour son grade chez moi.
Oui, ouais, bah, chez moi aussi. Ouais. Mais des fois, ça fait mal en plus. Voilà. Non, mais le personnage gentil de base, avec le bon flic, machin, non, ça marche pas. Les flics, de toute façon, il y a bien longtemps maintenant qu'ils sont complètement névrosés dans les séries policières. Hein. Hormis Horatio Caine, mais bon, il n'est pas assez doué. Il n'a que deux expressions faciales, donc bon, ça va être un peu juste.
Même dans les romans, je veux dire, le peu que je lis... Il n'y en a pas un. S'il y a un personnage récurrent, soit il est alcoolique, soit il a un problème avec sa mère, soit il a eu un problème avec son frère. Enfin, ils ont tous des trucs...
Son chien.
Ou son chien, ou son chat. Je pense à Mo Ryder, son personnage principal, a un problème avec son frère disparu. Il est persuadé que le pédophile qui habite à côté de chez lui a tué son frère. Et il essaie de prouver ça et ça le bouffe complètement. Et il fait plein de trucs hyper malsains, mais c'est censé être le gentil. Mais au final, il n'est pas gentil. Et en fait, je pense qu'on s'attache beaucoup plus aux gens qui ne sont pas gentils.
Comme Dexter, quoi.
Ouais, bah, alors, je déteste lui. Je déteste. Mais en fait, je pense que c'est plus facile de s'attacher à des gens qui sont réalistes. Parce que des gens qui sont. Enfin, tu vois, comme on avait en grande fantasy des héros holistiques avec une grande destinée, bah, c'est marrant 5 minutes, mais au final, on ne s'identifie jamais vraiment à ce personnage-là. Et c'est à tous les personnages secondaires un peu douteux ou qui font des trucs un peu. Ou qui font des bêtises ou qui font les mauvais choix. Qu'on va vraiment s'attacher parce que je pense qu'on connaît personne qui soit profondément et vraiment complètement gentil et dans l'abnégation et la bienveillance la plus totale.
Puis il faut être honnête quand même, hein. La morale c'est chiant quoi. Voilà. Ça vendrait pas de bouquin. Hein.
C'est la conclusion.
Ce sera le mot de la fin. Merci Laurent Weil et Floriane Soulas.
Merci à vous.